Signe des temps, Marc Wetzmann.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le 9 octobre dernier est sorti sur les écrans le film Papicha de Mounia Metour. Sélectionné à Cannes dans la sélection Un certain regard, lauréat de 3 prix au Festival d'Angoulême, c'est un film algérien qui revient sur ce qu'on a appelé la décennie noire en Algérie, c'est-à-dire sur la guerre civile opposant islamistes et gouvernements militaires qui a fait 200 000 morts dans ce pays entre 91 et 97. Dans le film, cette guerre est racontée depuis ses principales victimes, c'est-à-dire les femmes, en l'occurrence un groupe d'étudiantes qui luttent contre l'atmosphère toxique imposée par les islamistes à la société en sortant en boîte, en allant à la plage, en refusant de se voiler et en draguant ouvertement. Ce sont les papichas, les jeunes filles libérées envers et contre tout. Le 20 septembre dernier, l'avant-première officielle de Papicha en Algérie a été annulée au dernier moment et sans préavis, ce qui compromet la sélection annoncée du film aux Oscars. Aucune explication n'a été donnée par le Centre algérien pour le développement du cinéma, sinon des raisons internes. Aucune date de sortie n'est donnée non plus. L'évocation de cette période ou de la situation des femmes soumises à la pression islamique est-elle toujours aussi difficile en Algérie aujourd'hui, où les manifestations se succèdent depuis février dernier? Et que nous dit ce film? Que nous dit cette censure à nous ici, qui nous débattons à nouveau depuis le début de ce mois avec le terrorisme et avec ce qu'il est possible d'en dire? Pour en parler avec nous aujourd'hui, Mariam Elie-Lucas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue algérienne, militante des droits des femmes et de la laïcité. Votre engagement social ne date pas d'aujourd'hui. Il a été influencé par la période de décolonisation de l'après-guerre d'Algérie, mais aussi par les défis lancés sur les droits des femmes. Et dans les années 80, vous avez quitté votre poste universitaire pour aider à créer le groupe Femmes sous loi musulmane, dont vous êtes devenue la première coordinatrice internationale, je crois, en 84. Vous êtes également membre fondatrice de la Coalition des femmes défenseurs des droits de la personne et de l'organisation internationale « La laïcité est une affaire de femmes » qui milite contre l'application de la charia. Samia Lalou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes née à Blida, vous avez fait des études de journalisme à la faculté d'Alger, vous avez présenté durant 2 ans une émission qui passe pour avoir été la plus déjantée de la télévision algérienne, qui s'appelait comment ?
Bled Musique.
Et émission qui s'est arrêtée brutalement le 14 février 1994 avec un attentat.
C'était une autre émission avec le même réalisateur qui s'appelait Rock Rocky, donc oui. Mon rock à moi, oui. Et qui s'est arrêté en effet le 14 février 1994 parce que le réalisateur de l'émission a été victime d'un attentat terroriste, donc il a reçu 5 balles dans son thorax. Il est très rare qu'il rate leur cible et il se trouve que lui n'est pas mort. Il est resté sur un fauteuil roulant, mais vivant, bien vivant et continuant à travailler.
D'accord, vous êtes aujourd'hui réalisatrice de documentaires.
Oui.
Et vous avez monté plusieurs associations, dont l'association Bled Connexion, qui est en France, hein, qui vise à donner une scène aux artistes algériens exilés, à les mettre en contact les uns avec les autres. Vous êtes également membre de l'association 20 ans Barakat, qui milite pour l'abrogation du code de la famille. Oui. Et vous faites aussi partie du réseau international de solidarité Femmes sous loi musulmane.
Dont fait partie Mariam.
Dont fait partie Mariam également.
Et aujourd'hui, je travaille pour un fonds féministe qui s'appelle le Fonds pour les femmes en Méditerranée. Et c'est un fonds qui finance et soutient des projets de femmes tout autour de la Méditerranée.
Mmh. D'accord. Enfin, Mounia Metour, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc la réalisatrice de Papicha. Vous êtes née en 78 d'une mère russe, je crois, et d'un père lui-même cinéaste, qui était Azzedine Metour, qui a réalisé plusieurs films, dont La montagne de Baïa, qui reste un des classiques du cinéma algérien contemporain, qui se situe en Kabylie. C'est pas tout à fait anodin de le rappeler. Alors, Papicha est votre premier film de fiction. Vous avez fait des documentaires jusque-là. Où est-ce qu'on en est d'abord de la situation par rapport au film en Algérie, aujourd'hui?
Il est vrai que, à la suite des différentes projections que nous avons eues un peu partout dans le monde et en France, nous attendions vraiment cette avant-première algérienne avec énormément d'enthousiasme et de passion. Et malheureusement, on a effectivement eu un appel, comme vous le soulignez, pour nous demander de ne plus venir. On n'a aucun interlocuteur, on n'a aucune information crédible. On a notre producteur exécutif qui est sur place, qui essaie par tous les moyens d'atteindre le ministre de la Culture et qui n'arrive pas à avoir de réponse. Donc c'est vrai que la situation, pour l'instant, est assez complexe par rapport à la sortie, en tout cas en Algérie.
Vous savez pourquoi ?
Vous savez, il y a énormément de raisons qui peuvent être possibles. On a la conjoncture actuelle, bien évidemment. Il faut savoir que le film devait être accueilli dans une salle de 200 places et nous avions plus de 2000 réservations. Nous savons qu'il y a eu un concert de musique de Soul King qui a été malheureusement dramatique puisqu'il y a eu plus de 5 morts à cette époque-là. On sait qu'il y a certainement un tout petit peu du fait que nous portions des badges à Cannes.
Oui.
On soutient au peuple algérien et on soutient à la révolution tout à fait du sourire et aux manifestants. Donc il y a un peu de tout, je pense que c'est un amalgame et nous sommes effectivement en ce moment dans une situation très, très sensible et assez précaire, on va dire.
Et est-ce que ça remet en cause la sélection aux Oscars ou pas ?
Alors, lorsque j'ai vu qu'il n'y avait aucune possibilité sur Alger, j'ai tout simplement été directement au comité des Oscars aux États-Unis.
Mm-hmm.
Et nous avons demandé une audience au comité. C'est vrai que pour pouvoir concourir aux Oscars, il y a un article, c'est le numéro 30, qui dit que nous sommes obligés d'avoir une sortie nationale sur 7 jours consécutifs. Et malheureusement, nous ne respections pas avec ce film ce critère et cette règle-là. Donc, sachant que la situation est assez sensible en ce moment en Algérie. On a tout simplement contacté directement le comité des Oscars aux États-Unis. Nous leur avons expliqué notre situation, notre bonne volonté à vouloir sortir le film. Nous avons accompagné notre demande d'audience avec un courrier du comité des Oscars algériens qui nous a soutenus dans cette démarche-là. Et nous avons donc reçu la bonne nouvelle de cette dérogation et que donc l'Algérie concourt officiellement parmi les 92 autres films puisqu'il y a 93 films qui ont été annoncés hier.
Alors c'est une situation très paradoxale puisque l'Algérie va être représentée par un film dont rien ne dit qu'il va sortir dans son propre pays aujourd'hui.
Tout à fait. C'est un film, c'est très paradoxal puisque ce film, bien évidemment, a été financé aussi par l'Algérie. C'est une coproduction franco-algérienne. La Belgique aussi a participé, mais l'Algérie a financé ce film. Le ministère de la Culture, l'ancien ministre de la Culture, a financé ce film-là. Ce film-là a obtenu des aides aussi de comment on pourrait appeler ça, de tournage, c'est-à-dire une autorisation de tournage, puisqu'on ne peut pas tourner un film comme celui-ci en Algérie sans autorisation. Et nous avons surtout obtenu un visa d'exploitation qui permet au film de sortir en salle. Et entre-temps, a démarré, bien évidemment, la révolution du sourire, avec tout ce qu'on sait, avec cette révolte populaire. Et le sort du film, effectivement, a été suspendu.
Alors, est-ce que, je vous pose la question à toutes les trois, est-ce que ce qui se passe avec ce film a aussi à voir avec son contenu ? Est-ce qu'on peut dire ça, Samia Lalou ?
Clairement, parce que la vérité en Algérie n'a pas encore été dite.
Mmh.
Et ce film dit beaucoup de vérité.
Oui.
Et je le sais, pour avoir vécu vraiment plusieurs de ces scènes, puisque j'étais à la cité universitaire, étudiante.
Où se passe une bonne partie du film.
Voilà, vraiment une grande partie du film. Je l'ai vécu comme comme un flashback.
Mm-hmm.
Et cette vérité n'a pas été dite.
Mm-hmm.
N'a pas été dite aux enfants, n'a pas été dite aux jeunes. Moi, j'ai rencontré beaucoup de jeunes en Algérie qui ne savent pas ce qui s'est passé. Et puis, il y a eu l'amnistie. Comme vous le savez, en 2000, le président Bouteflika, à l'époque, avait décidé de pardonner aux terroristes qui n'avaient même pas demandé pardon. Et justement, le réalisateur Aziz Mati, il a dit « Mais moi, je n'ai jamais pardonné. Et d'ailleurs, on m'a jamais demandé pardon.
Mmh. »
Donc voilà, cette vérité n'a pas dite. Et ce film vient la dire d'une manière tellement merveilleuse qui suscite le débat, qui suscite le questionnement, et je pense qu'ils ont peur de ça.
Mmh.
Ils ont peur de...
Et puis il y a le rôle des femmes aussi, puisque c'est des vraies résistantes.
Oui,
et dans le film, moi, l'idée première de ce film, c'était de rendre hommage aux femmes,
puisque
à l'époque, dans les années 90, les seules informations que l'Occident, que l'Europe et le monde recevaient de l'Algérie, c'était le nombre de bilans et de victimes. Et donc moi, j'avais envie de montrer quelque chose de l'intérieur, montrer la résistance des femmes en Algérie, les intellectuels, les journalistes, les médecins, les étudiantes. Et donc, c'est vrai que là, on dépeint des femmes fortes, des femmes qui résistent. C'est les femmes qui sont dans les rues aujourd'hui en Algérie.
Mmh, mmh.
Donc, c'est un soutien aussi, quelque part, à ce qui se passe
en ce moment.
Donc, certainement, il y a de ça aussi.
Marie-Amélie Lucas, vous pensez qu'il y a un lien entre ce qui est dit dans le film et ce qui s'est passé à l'époque et ce qui se passe aujourd'hui ?
Si on considère qu'un tiers de l'Assemblée nationale était aux mains des intégristes sous Bouteflika, on peut vraiment... Il n'est pas nécessaire de se poser la question... Certainement, l'État n'a pas intérêt à ce que ces problèmes soient soulevés, parce qu'on ne sait pas encore quelle va être la place que les intégristes vont essayer de prendre dans le mouvement populaire.
Mmh. Ah oui, vous pensez que ça joue aussi?
Oh, je pense que ça joue énormément. Ils étaient un tiers à l'Assemblée nationale. Mm-hmm. C'est pas rien.
Et donc le gouvernement a peur de mettre la question sur le tapis à cause de ça, à cause de ce qui peut se produire?
Entre autres.
Pas seulement à cause du passé.
Pas seulement à cause du passé.
Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Marie-Amélie Lucas sur le fait que le gouvernement peut avoir peur non seulement des questions non réglées du passé, mais d'aujourd'hui?
Je ne sais pas. Il a peur. Pour moi, j'ai dit que c'était vraiment une question de vérité qui sort comme ça. Mais de toute façon, il y a beaucoup de livres qui sortent. Il y a beaucoup de films qui parlent de ce qui s'est passé. Et ce film-là, justement, il parle de ces jeunes femmes, de ces jeunes. On parle rarement des femmes, du corps des femmes, du voilement des femmes. En Algérie aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui ont été voilées. C'est-à-dire même s'il y a eu cette résistance, parce que la vie est plus forte que la mort. C'est-à-dire les gens continuent à aller à l'école, on continue à travailler, on continue. Et tout le monde a résisté, les artistes ou les journalistes.
Mais les gens de la rue, quoi, tout le monde.
Oui, tout le monde a résisté en continuant à vivre, en continuant à aller à l'école.
C'est ce qu'on voit dans les premières scènes du film.
Tout à fait.
Le film s'ouvre avec ça, il s'ouvre avec deux filles qui sont Nejma et Wassila dans le film, qui se maquillent dans le taxi, qui sortent, qui font l'école buissonnière en fait. Elles sortent de l'internat de la fac, elles montent dans un taxi et elles se mettent à se maquiller sous le regard plutôt hostile du chauffeur de taxi pour aller danser. Ça commence comme ça.
Tout à fait, oui. Pour moi, c'est vraiment une scène clé. Mais ce que vous avez oublié de préciser, juste un tout petit peu avant, elles s'échappent.
Oui,
ce milieu un peu semi-carcéral. Elles ouvrent ce grillage, elles s'extirpent de cette cité qui est un peu le cocon aussi, qui leur permet d'avoir une certaine liberté. Donc elles sortent de cet espace clos, il y a cette course effrénée, puis on est dans un taxi et il y a la féminité. Mmh. Cette féminité qui est à l'abri des regards quelque part, sauf du regard du chauffeur. Donc on s'habille, on se maquille, mais tout de suite après, on est replongé dans cette réalité algérienne, dans cette réalité de l'époque, la réalité des barrages.
Des barrages.
Et de la tension que ça peut donner, puisqu'on peut très bien tomber sur un vrai comme sur un faux barrage. Mmh. Et donc dans cette scène d'ouverture, j'ai voulu vraiment poser le décor, cette pulsion de vie qui est continuellement entre la vie et la mort. Et je trouve que c'est une ouverture qui nous plonge vraiment dans l'Algérie des années 90, où le quotidien était quand même incertain.
Alors, elles vont danser, c'est tout le début du film, et puis elles vont rencontrer deux garçons très vite, mais immédiatement, leur désir de liberté va se trouver ponctué de coercition, enfin d'éléments de conflit. Il y a les affiches avec l'obligation pour les femmes de se voiler, il y a les deux garçons qu'elles rencontrent qui vont évoluer de manière quand même compliquée dans les deux cas. Plus tard, il y a le marchand de tissus, il y a aussi le gardien de l'internat qui veut un arrangement avec Nejma en particulier, c'est-à-dire qu'il voudrait bien que la façon dont il ferme les yeux se paye d'une séance de sexe, en fait. C'est ça qu'il finira par tenter de la violer. Donc à chaque fois, le désir de liberté, l'expression de la liberté se heurte aux paralysies de la société algérienne et aux hommes et à l'islam.
Oui, continuellement. C'est vrai qu'au moment de l'écriture du scénario, j'ai réfléchi ça comme une sorte de thriller, comme une sorte de montagne russe. C'était effectivement le cas en Algérie, puisqu'il y avait des moments de joie, des moments de liberté, d'espoir, d'humour, de complicité, de complexité, mais aussi des moments dramatiques. Et donc, c'était notre quotidien. On pouvait très bien aller en boîte de nuit le soir et le lendemain se retrouver dans un bus avec des gens qui nous distribuaient des voiles gratuitement. Donc c'est vrai que ce paradoxe est aussi à l'image de la caractérisation des personnages.
Il y a cette chanson qu'elles chantent ensemble pour sortir de cette vie, je ferai n'importe quoi au début. Tout ensemble, une espèce de rap qu'elle chante.
Alors ça, c'est le Bénébi.
C'est le Bénébi.
C'est ça, c'est un chanteur que vous connaissez,
oui.
J'imagine.
Oui, oui.
Et c'est vrai que cette musique-là, ces chansons-là, étaient les chansons que nous écoutions dans les années 90.
Mmh. On va en écouter une tout de suite pour se mettre un peu dans l'atmosphère du film.
France Culture, Signe des Temps, Marc Wetzmann.
ربي الواد وجيبي نحن حسين
Alors cette musique-là est la musique qu'on entend en fait quand elles sont sur la plage, c'est ça hein.
Tout à fait, c'est vraiment la symbolique de la liberté de ce moment plutôt interdit, mais qu'elle s'autorise à prendre, puisque c'est vrai que la plage était un endroit qui n'était pas forcément accessible à cette époque-là. Et c'est vrai que cette musique est tout à fait représentative et symbolique de cette bouffée d'oxygène. C'est une ode un peu à la liberté aussi, je trouve.
Et vous avez dit, je crois, dans une interview que au moment de tourner cette scène sur la plage, vous avez tourné en Algérie. Vous avez été aussi confronté à des voisins qui menaçaient d'appeler la police parce que les filles étaient en maillot de bain, c'est ça ?
Alors effectivement, c'était pas cette scène-là, c'était l'autre scène sur la plage avec le garçon et au niveau du rocher. Ce qui s'est passé, c'est que nous tournions en plein Ramadan. Et donc c'est vrai que c'était assez compliqué pour nous de pouvoir faire tourner les filles en maillot de bain. Donc nous avons, si vous voulez, borgnolé, comme on dit dans le cinéma, borgnolé tout l'espace de tournage. Mmh. Donc c'était assez, assez étrange comme situation.
Alors dans le film, on voit la montée assez rapide en fait des islamistes et vous les montrez en particulier à travers des brigades de femmes. La première fois qu'elles apparaissent, c'est à l'université. On les voit arriver, on les voit se saisir d'un prof qui enseigne en français et une des femmes dit « Maudit soit ceux qui parlent une langue étrangère ». C'est ce qui se passait, le français et j'imagine le kabyle aussi était visé.
Oui, encore une fois, ce qui m'intéressait dans la caractérisation des personnages, c'était d'avoir, on va dire, des méchants et des gentils chez les garçons et chez les filles. Oui. Et donc, c'est pour ça que pour moi, c'était aussi important de montrer des femmes.
Des femmes
tueuses, puisque l'attentat est quand même commis.
Le premier attentat qu'on va voir, oui.
Voilà, est commis par une femme. Les brigades sont féminines, elles s'immiscent doucement à l'intérieur de la cité universitaire et puis au sein de l'intimité des chambres, donc au sein de l'intimité des filles, du cocon finalement. Et oui, bien évidemment, à cette époque, enseigner le français, l'anglais était très compliqué. Et nous avions des interventions similaires pour nous interdire de continuer des cours. Et c'est vrai que le français n'était pas une langue bienvenue, on va dire.
Marie-Amélie Lucas, vous étiez évidemment en Algérie à l'époque. Vous connaissez ce genre d'irruption des brigades islamistes féminines ?
Ce que je voudrais dire surtout, c'est qu'un certain nombre de choses qui sont décrites dans le film comme étant la montée de l'intégrisme dans les années 90 ont en fait commencé beaucoup plus tôt.
C'est ça.
Mais à petit bruit beaucoup plus tôt, ce qui a permis à beaucoup de gens de rester dans le déni jusqu'aux années 90 où ça a explosé, si j'ose dire. Mais par exemple, quand elle s'enfuit de la cité universitaire, je voudrais juste rappeler qu'à partir des années 70 et tout au long des années 80, il y avait des brigades de barbus, d'étudiants intégristes, qui faisaient fermer les portes des cités universitaires vers 18h. Mmh. Et les filles étaient enfermées à l'intérieur. Donc ça, c'est des années 70-80. Vous voyez, puis évidemment, c'est monté en puissance dans les années 90. Il y a plein de détails comme ça, où, par exemple, la ségrégation filles-garçons, qui apparaît dans le film. Moi, j'ai le souvenir de l'été 62, c'est-à-dire l'été de l'indépendance, en août, Junoud de l'armée de libération nationale en armes, arrêtant des groupes mixtes de jeunes gens et jeunes filles et leur demandant s'ils avaient un livret de famille pour justifier le fait qu'ils marchaient ensemble dans la rue. Mmh. Voilà, il y a des tas de choses comme ça.
Donc ça
il me semble que c'est intéressant à dire maintenant, et parce qu'on est en France, parce que la tendance en France, c'est de justifier l'explosion intégriste des années 90 par l'arrêt du processus électoral.
Oui.
Alors que tout ça est arrivé petit à petit, tout à fait petit à petit, et qu'on peut en donner plein d'exemples, par exemple, les espèces de brigades de moralité. Mmh. Et bien, bon, le premier meurtre d'un gay très connu, qui était le poète Sénac, c'est dans les années 60. À la fin des années 60, les ouvrières d'une usine de Sidi Belabès ont été empêchées pendant 3 semaines d'aller travailler à l'usine. Ça n'a pu rouvrir que sous protection de l'armée, parce qu'il y avait des intégristes qui les caillassaient. Voilà, et ça voulait dire les femmes à la maison. Et si on parle des affiches, par exemple, pour que les femmes soient voilées. Mmh. Dès les années 70, on a eu une invasion de ce qu'on appelait le costume des étudiantes, entre guillemets, qui était en fait un espèce de costume à l'iranienne, qui était tout à fait inconnu en Algérie et qui était propagé par les intégristes.
Et alors, voilà, l'influence, s'ils étaient inconnus en Algérie, je veux dire, l'influence venait d'où alors ?
Iran.
D'Iran ?
C'était le costume que les Iraniennes portaient à l'époque, c'est-à-dire un espèce d'imperméable beige qu'on voit aujourd'hui en Turquie, par exemple, à Istanbul, il y en a partout, avec un foulard sur la tête, qui n'était pas quelque chose qui était normalement porté, en tout cas à Alger, où on avait un haïk, éventuellement, mais pas ce costume-là. De la même façon, on voit maintenant l'invasion des burkas style Arabie Saoudite, qu'aucune de nos mères, grand-mères et autres aïeules n'a jamais porté.
Donc ce que vous dites, c'est
importé chaque fois.
Voilà, c'est ça. Mais ce que vous dites, c'est que l'histoire remonte beaucoup plus loin que ce qu'on dit généralement. C'est pas seulement la crise du processus électoral des années 90. C'est quelque chose qui vient de plus
Absolument
loin.
Absolument pas. Absolument pas. Ça a certainement dynamisé le mouvement intégriste, mais il a été là depuis le début. Il a certainement été là à l'intérieur du mouvement national.
Vous êtes d'accord avec ça, Samia Lalou?
Moi, de ce que j'ai vu, et je viens d'une ville qui s'appelle Blida, moi j'ai vu la montée des islamistes à la fin des années 70. C'est-à-dire, je les ai vus, c'était visible, comme elle le dit Marie-Aimée, le mot hijab n'existait pas. On connaissait pas ce mot. Et puis on a commencé à voir, des jeunes hommes voisins laisser leur barbe pousser, puis écourter leurs pantalons. Et puis moi j'étais au collège et il y avait un prof de maths qui, à la fin des cours, nous faisait le prêche et nous faisait tellement peur que beaucoup de filles au collège ont commencé à se voiler. C'est-à-dire, si on mettait une caméra au-dessus de la cour de récré, on voyait de plus en plus de voiles. Et voilà, c'est-à-dire qu'il y a une montée des islamistes qui a commencé comme ça. Ils ont commencé à faire des cercles de femmes, ce qu'on appelait les halqas. C'est-à-dire, c'était les seuls espaces où des femmes pouvaient aller. Et puis, c'était à la mosquée, donc ça ne pouvait pas être refusé par les parents, les frères, le père. Donc, c'était autorisé. Et donc, les filles se retrouvaient là. Et c'était la politique de la peur. C'était, on les appelait les frères musulmans à l'époque. On les appelait pas les islamistes. On connaissait pas le mot, la tendance politique. La tendance politique est arrivée par la suite. Est arrivée dans les années 90, quand il y a eu, quand le parti islamiste avait été autorisé et agréé, alors que c'était anticonstitutionnel. Il avait été agréé, il a participé aux élections, ils ont gagné au municipal, ils ont gagné au premier tour des législatives, mais à ce moment-là, on a commencé à avoir peur, parce que pendant toute cette période-là et un peu avant, il y avait ces menaces, il y avait ces graffitis, il y avait ces affiches pour les femmes, c'est-à-dire qu'ils nous ont vraiment annoncé la couleur, la République islamique, on l'a vu arriver, et on n'avait pas envie de ça. On n'avait vraiment pas envie de ça. Et puis, il y a eu une marche massive à Alger, à laquelle moi-même j'ai participé, pour dire on ne veut pas de ça. Il y a eu le coup d'État. Et puis après, enfin, le coup d'État. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont arrêté le processus électoral. Oui, ils ont arrêté le processus électoral. Et on était nombreux à être d'accord avec ça. Et puis par la suite, on sait ce qui s'est passé. Voilà, il y a eu l'insurrection.
Vous étiez nombreux à être d'accord avec
la guerre contre les civils, pas une guerre.
C'était une guerre contre les civils lancée par.
Pour moi, c'était les islamistes. Ils ont clairement revendiqué leurs faits. Ils ont clairement revendiqué les faits. Maintenant, on a envie de revenir en arrière et de réviser, de faire une espèce de révision un peu malsaine, à mon sens, puisque si on revoit les faits. Les islamistes ont revendiqué les attentats, ils ont revendiqué les assassinats. Donc je ne vois pas pourquoi on revient là-dessus maintenant. Peut-être qu'il y a eu des choses qu'on n'a pas très très bien compris, peut-être qu'il y a eu des... Mais les islamistes ont clairement revendiqué à l'époque leur fait et les attentats. Et donc je ne vois pas pourquoi on les dédouanerait aujourd'hui de ce qu'ils ont commis comme meurtre et qu'on leur pardonnerait à travers cette politique de l'amnistie qui finalement aujourd'hui, c'est-à-dire le terrorisme a été vaincu, mais l'islamisme, non.
Non.
En Algérie, l'islamisme n'a pas été vaincu. Et je fais la différence entre l'islamisme et l'islam. Je ne fais pas de confusion entre... Voilà.
Alors, pour revenir au film, le premier attentat qu'on voit, le premier meurtre qu'on voit, est effectivement le meurtre d'une femme par une autre. C'est une islamiste qui tue la sœur aînée de Nejma, qui est journaliste, et qui donc écrit des choses qu'elle ne devrait pas écrire, et qui se fait tuer. C'est un meurtre qui est montré de manière très sobre, et d'autant plus terrifiante, parce qu'il y a ce côté parfaitement presque anodin. C'est un geste de la rue, quoi. Il y a absolument rien de spectaculaire. Et c'est une scène qui arrive après une scène où la mère des deux sœurs a expliqué quelle était la fonction du haïk, de ce fameux voile, les différentes fonctions au moment des fiançailles, du mariage, et comment les femmes mariées pouvaient mettre le voile dans leur bouche pour ne pas parler parce que la femme ne parle pas. C'est cette mort après cette scène qui va décider l'héroïne, Nejma, à prendre le haïk, à se l'approprier et à monter dans l'internat un défilé de mode avec des haïks, c'est ça.
Tout à fait, vous avez tout dit. Oui, bien sûr que Nejma part d'une étoffe traditionnelle, symbolique. Vous avez effectivement cette scène où la maman explique que ce tissu a été d'une utilité nationale, puisqu'il a été utilisé pour cacher des armes, pour aider les hommes à combattre le colonialisme. Et donc Nejma récupère cette étoffe et la recycle. Et elle fabrique donc une nouvelle collection, une collection qui va un tout petit peu dévoiler le corps des femmes. Mais elle repart de ce tissu tout à fait sacré, puisqu'il est blanc, il est pur, en opposition avec ce qui se passe à l'extérieur où on veut couvrir le corps des femmes d'un tissu sobre et sombre. Donc voilà, c'est la lumière contre l'obscurité, mm-hmm. Et puis c'est dévoilé, là on veut voiler, et donc c'est vrai que la mode a encore une fois dans ce film-là un rôle symbolique de résistance, mais aussi un élément fédérateur, puisque c'est ce qui fédère toutes les jeunes filles de la cité malgré leurs différences, autour de cet objectif, de ce but qui est porteur de beaucoup d'espoir.
Alors, Nejma va se heurter à un certain nombre d'obstacles à mesure qu'elle va avancer dans son projet de défilé. Il y a le type qui lui fournit les tissus, le vendeur de tissus, tout simplement. C'est un vendeur sympathique avec qui on marchande. Et puis, petit à petit, il lui fait la morale, il lui explique que les femmes n'ont pas à travailler. À un moment donné, on voit son magasin changer et on le voit ne plus vendre que des tissus vraiment, enfin, à usage religieux. Et il explique que sa boutique a été rachetée par un Émirati, je crois. Donc il n'y a pas de discours dans votre film, mais on voit quand même à travers des détails comme ça l'emprise sur la société algérienne d'un certain nombre d'éléments clairement islamisants, clairement islamistes, étrangers dans le cas du magasin. Les filles se retrouvent petit à petit prises dans cette espèce d'étau, dans cette toile d'araignée.
Oui. Encore une fois, c'est vrai que au moment de l'écriture du scénario, je voulais des personnages très complexes avec une évolution. Et l'exemple effectivement de cette mercerie est l'exemple type de la transformation de la société algérienne à cette époque-là. On pouvait effectivement avoir dans la même famille deux enfants, l'un qui était très sympathisant, radicaliste, islamiste, et de l'autre côté, on pouvait avoir un fils tout à fait ouvert, artiste, intellectuel. Donc il y avait vraiment ce paradoxe. Et c'est ce que j'ai voulu montrer avec ce rachat un peu de cette boutique, ce passage de cette boutique scintillante assez colorée. Et de l'autre côté, nous avons ce rachat par l'obscurantisme et par ces pays arabisants qui vont couvrir ce corps des femmes.
Mais alors, c'est ce qui est l'autre paradoxe, c'est que c'est quelquefois cette schisme peut exister à l'intérieur de la même personne. C'est-à-dire que le vendeur, à mesure qu'il adopte le discours intégriste, le discours islamiste, dit en même temps à Nejma, mais avec Dieu, de toute façon, on peut toujours s'arranger. C'est-à-dire qu'à la fois, il lui prône d'être très strict, mais en même temps, s'il y a vraiment des problèmes, ben on s'arrange, on négocie, quoi. Ce qui est sans s'arranger, c'est aussi le terme qu'emploie le gardien de l'internat pour demander des faveurs sexuelles à Nejma. Donc il y a un élément de, on peut jouer à la corruption avec Dieu, plus on est intégriste et plus on peut jouer quand même avec Dieu.
De toute façon, de façon générale, en Algérie, c'est le pays des paradoxes. Donc, on peut très bien être arrangeant. Il y a un échange de bons procédés. C'est quelque chose qui fait partie, malheureusement, des contradictions de la société algérienne.
Alors, l'autre élément de complexité, c'est ce qui se passe entre Nejma et Wasila. À partir du moment où elles ont chacun un petit ami, dont un qui va s'avérer de plus en plus proche des islamistes, et enfin Oui.
Je ne dirais pas ça, c'est misogyne.
Samia Lalou.
Oui, non, c'est tout simplement, puisque en fait la cité universitaire, à l'époque et aujourd'hui toujours, est quand même assez mal vue. Donc il a plutôt un discours machiste par rapport à sa petite copine.
Mais c'est un discours machiste qui va assez loin, puisqu'il lui tape dessus quand même.
Oui, mais vous savez, en France, depuis le début de l'année, on est à 111 femmes tuées.
Oui, je ne dis pas que la GIA a le monopole.
L'Algérie n'a pas le monopole, non.
L'islamisme non plus n'a pas
l'islamisme
le
non plus.
De la violence, je veux dire.
Mais ça va conduire les deux filles...
La violence contre les femmes est un fait universel.
Est un fait universel, oui.
Exactement.
Mais qui, en l'occurrence, peut être légitimé politiquement dans certains cadres. Dans le cas de l'islamisme, il y a une forme de légitimation politique.
Oui, de l'islamisme ou de l'extrême droite, ou je veux dire, la violence contre les femmes n'a pas de couleur politique.
Tout à fait.
Voilà.
Et ça va créer quand même entre les deux femmes une vraie rupture.
Tout à fait. Il y a une trahison, c'est sa meilleure amie, mais il y a une trahison qui s'opère. Et c'est un personnage qui va aller plutôt vers cette histoire, puisque c'est un personnage qui est un peu fleur bleue, à l'opposé de Nejma, qui est une vraie battante, une résistante. Mm-hmm. Et c'est quelqu'un qui a un objectif et qui fonce et qui est quand même assez pragmatique. Là où Wassila est plutôt fleur bleue, on va dire.
Et le film finit bien et mal en même temps, puisque Nejma va quand même payer, elle ne sera pas la seule à payer cher le défilé. On voit la tuerie finale, on voit les islamistes, on voit des ombres en fait. Vous les montrez sans les montrer, les islamistes.
Oui, parce qu'il faut comprendre que le film a un point de vue particulier. Moi, je viens du documentaire et donc pour moi, le plus important était d'avoir un point de départ. Et le film est raconté du point de vue de Nejma. Donc, tout le long du film, si on analyse, on est tout le temps de son point de vue à elle. Même lorsqu'il y a l'assassinat de la sœur, on ne quitte jamais ce point de vue. C'est ce regard qui m'intéresse. Et c'est vrai qu'au moment du défilé de mode, c'est pareil. On est avec Nejma, on ne la quitte pas et le reste, c'est de l'ombre. Donc, on essaye de survivre avec cette héroïne au milieu de cette tuerie.
Mais en même temps, ce que vous montrez de l'Algérie de l'époque est très clair. Il n'y a pas d'ambiguïté sur qui tient les armes.
Oui, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas d'ambiguïté. Oui, on sait qui tient les armes.
Est-ce que Mariam et Lucas, est-ce que vous pensez que est-ce que c'est nécessaire pour selon vous de revenir sur ces années-là pour pouvoir avancer?
Oh, certainement. Je pense qu'autrement on fait face à une transmission intergénérationnelle du trauma et qu'on en a pour des générations à le liquider. Il y a besoin de vérité, tout le monde le sait, dans tous les pays en conflit dans le monde. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a deux choses que j'ai vraiment tellement apprécié dans ce film, et bravo pour avoir fait ça.
Oui.
C'est une histoire de résistance, et une histoire de résistance des femmes, alors que quand on parle de l'Algérie des années 90, on parle de l'intégrisme musulman. Enfin, on a le point de vue de ce qui a sauvé l'Algérie des griffes des intégristes, c'est-à-dire le fait que les gens n'ont pas adhéré. Et il y a aussi quelque chose qui m'a charmée, c'est le point de vue des jeunes. Ce qui est très différent des gens de ma génération. Avoir 20 ans en 62 ou 20 ans dans les années 90, c'est pas du tout pareil. Nous, on était très politisés, les étudiants de cette époque, et on voulait changer le monde. Et là, ce qu'on comprend à travers ce film, c'est qu'elles veulent vivre et ils veulent vivre, et que c'est une démarche politique de vouloir vivre. Et encore plus pour l'héroïne qui refuse de partir et d'abandonner le terrain aux intégristes.
Oui.
Autre chose que j'ai adoré, c'est que ce n'est pas un film héroïque. Ma génération a enduré des films héroïques sur la lutte de libération. Je ne veux pas dire par là qu'elle n'a pas été héroïque, mais enfin pendant presque 15 ans, jusqu'en 76 et le film Omar Gatlatou, on n'a eu que des films qui célébraient la résistance.
Mmh.
Et là, c'est vivre qui est la résistance. Et je trouve ça absolument merveilleux.
Oui, de ce point de vue, c'est un film qui n'est pas idéologique.
Non, parce qu'effectivement...
Oui,
allez-y, Mariam.
Il transmet quelque chose de très fort, c'est-à-dire que le peuple algérien, et en particulier ses femmes, ont résisté. Et je pense que c'est très politique.
Mmh. Mounia Medhouri.
Tout à fait, moi je partage. Merci beaucoup pour cette belle analyse du film. Mais c'est vrai qu'à l'époque, nous étions très peu politisés. On évitait de regarder la télé, on évitait d'écouter les informations. On demandait juste combien de victimes. Et c'est vrai que là, c'était un autre regard. C'était montrer une autre facette de l'Algérie, montrer celles qui ont résisté, effectivement celles qui ont permis à l'Algérie de continuer à vivre. Et effectivement, sortir, s'habiller normalement, refuser de porter le voile, était déjà un acte de résistance.
Au début de la première scène, la scène dans le taxi dont on parlait tout à l'heure, la musique qu'on entend, c'est une musique américaine en fait.
Ah oui, c'est tout à fait le style de musique que nous écoutions à l'époque, dans les années 90. En tout cas, pour ma part, puisque c'est encore une fois mon point de vue sur cette période-là, avec mes amis, oui, nous écoutions aussi bien Claude Barzotti, Benebi, New Kids on the Block, mais aussi d'autres tubes algériens aussi. Mm-hmm. Donc il y avait une certaine ouverture, nous vivions un peu comme les autres jeunesses du monde, sauf que nous étions une génération sacrifiée, oui. Sacrifiée à cause de la situation. Mm.
Samia Lalou.
Oui, et pourtant à l'époque, il n'y avait pas Internet. C'est-à-dire, ce qui s'est passé aussi, c'est que on a vécu tous ces événements un peu à huis clos. C'est-à-dire, ce qu'on voit de ce qui s'est passé dans les révolutions, ce qu'on a appelé les révolutions arabes ou le printemps arabe, on a vu les choses se faire en Algérie quand il y a eu le 5 octobre 88. Et puis après, il y a eu une ouverture politique avec le multipartisme, avec la liberté de la presse. Du jour au lendemain, on passe de 3 journaux à plus d'une centaine de journaux. Et quand le terrorisme arrive, on se retrouve seul. On avait l'impression d'être seul. Oui. On était en train de vivre toutes ces horreurs à huis clos. Mm-hmm. Et quand moi je suis arrivée en France en 94, on nous reprochait, c'est-à-dire qu'on nous disait vous avez cautionné un coup d'État. En fait, non, on voulait juste vivre
l'arrêt du processus
électoral. Et on a essayé d'expliquer cette démarche. On leur a demandé, imaginez qu'en France, voilà, il y a un parti islamiste qui vient vous dire demain, si j'arrive au pouvoir, les femmes seront toutes voilées, elles vont toutes rester à la maison travailler, elles vont avoir une pension, enfin bref. Imaginez ça, est-ce que vous pouvez vous mettre à notre place? Et donc le relativisme culturel à l'époque a fait que il n'arrivait pas à se mettre à notre place. Et puis on a vu les prémices de ce qui s'était passé en Algérie commencer à arriver en France à la fin des années 90. C'est pareil, on nous disait mais non, ici vous êtes en France, ça n'est pas la même chose. Mais en fait le fondamentalisme, quand on voit ses racines, quand on voit, c'est exactement le même processus quel que soit le pays où il se développe.
Mmh. Oui, absolument.
Quel que soit le pays, il y a des formes différentes, voilà, en fonction de la culture, de la société. Mais en fait, on arrive tout doucement vers les mêmes fruits, en quelque sorte.
Mais c'est ça. C'est quand vous êtes arrivé en France, il y a eu c'est plus qu'un malentendu. Il y a eu cette idée que finalement l'arrêt du processus électoral était un coup d'État auquel les opposants aux islamistes avaient. C'était la narration qui dominait en France. C'est ce qu'on vous a reproché de cautionner un coup d'État.
C'est-à-dire que là encore, ils ont divisé les Algériens en deux parties. Certains ont été appelés éradicateurs et l'autre, voilà. Les autres négociateurs. Et là encore, les Algériens n'arrivaient plus à se mettre autour de la même table pour parler. Et ça, c'était un problème. Comme aujourd'hui, vous voyez, la situation est différente, mais on n'arrive toujours pas à se mettre autour de la même table pour essayer de mettre nos divergences de côté et essayer de voir quelles sont les priorités communes pour nous, là, en ce moment, et avancer ensemble. Ça, on a beaucoup de mal. Il est vrai que pendant 30 ans, il n'y a pas eu de démocratie en Algérie. Il y a eu un régime, le régime de Bouteflika a été vraiment... Il a désactivé tous les processus politiques, démocratiques. Donc les gens ne se parlaient plus vraiment, ne parlaient plus de politique, n'étaient plus intéressés par ça. Et aujourd'hui, on voit le résultat. C'est-à-dire là, ça fait quelques mois que le peuple sort, qu'il s'exprime, qu'il dit son ras-le-bol de cet état de mort dans lequel on était pendant de longues années. Et là, on arrive à une espèce de confrontation très dur et c'est vrai qu'il y a une pression qui devient de plus en plus grande au fil des vendredis, mais les gens continuent à sortir et continuent à...
Marie-Amélie Lucas, vous êtes optimiste sur l'avenir, là, sur ce qui est en train de se produire ?
Moi, je suis toujours optimiste dans la mesure où tant qu'il y a des esclaves, il y a des révoltes d'esclaves. Mmh. Ceci dit, je pense que le déni qui a prévalu pendant les années 60, 70 et 80 à propos de la montée de l'intégrisme continue à exister en Algérie. Et chaque fois que je parle avec des amis, on me dit « mais non, ne joue pas les Cassandres, ils sont marginalisés, ils sont plus là, etc. » Je suis sûre du contraire. Ils sont là, ils sont très organisés. Donc c'est un danger. Et il est important pour moi de le dire, non pas pour disqualifier ce merveilleux mouvement populaire, mais pour dire prenez confiance et battons-nous avant qu'ils essayent d'arriver au pouvoir. Ils y étaient sous le gouvernement de Bouteflika. Alors, je suis très optimiste.
Mounia Medou, vous vivez en Algérie?
Moi j'habite en France depuis 20 ans.
Vous êtes en France, d'accord.
Vous n'êtes pas comme Nejma. Moi, c'est à l'opposé de Nejma, justement. J'ai créé ce personnage en opposition avec ma situation, puisque moi, j'ai dû partir du jour au lendemain, déracinée. Et donc, j'ai créé au contraire un personnage qui, lui, est enraciné dans cette Algérie profonde et qui ne veut absolument pas quitter.
Vous ne voulez pas rentrer?
J'y retourne souvent pour le travail, pour les documentaires.
Oui, bien sûr.
Je continue à faire des documentaires pour ce film. Mais c'est vrai que moi, je suis quand même installée ici et je regarde ça avec beaucoup de fierté, un peu d'inquiétude depuis hier, puisque les dernières manifestations ont été plus violentes que les précédentes et que des étudiants ont été réprimés, emprisonnés. Ils sont 13, me semble-t-il.
Donc
la situation commence à être tendu.
Oui. Mais vous êtes, je pense que toutes les deux sur cette table, Samia Lalou et Mounia Bedour, vous partagez l'optimisme jusqu'à un certain point de Marie-Amélie Lucas.
Ah oui, si on n'est plus optimiste, on arrête de vivre, on arrête de respirer. Moi, j'étais en Algérie, là, en début septembre, on a organisé une formation avec des jeunes femmes là-bas et ça s'est très très bien passé. Et c'est des Nejma. Les jeunes ont envie de vivre. On n'est plus dans la situation des années 90, c'est-à-dire l'islamisme politique a perdu du terrain dans le sens où les jeunes ne veulent plus de ça. Mais c'est vrai que parfois le pouvoir joue avec ça, c'est-à-dire que c'est comme une menace qu'on nous brandit comme ça pour dire attention, s'il y a démocratie, il peut y avoir les islamistes. Mais moi je sais que les jeunes ne veulent plus de ça.
C'est ça, puisque c'est une jeunesse aujourd'hui qui a 20 ans, qui est connectée au niveau de tous les réseaux sociaux, qui est massive, qui est pacifique. Et pour moi, c'est un peu à l'image de la dernière scène du film, puisque la dernière scène du film en regroupe trois générations. Il y a la maman, qui fait partie de la résistance des années 62. Donc, vous avez la Nejma, qui correspond à ma génération, celle qui a vécu la guerre civile. Et puis, c'est cet enfant qui va naître, peut être représentatif des femmes qui sont dans la rue aujourd'hui, qui militent pour leurs droits, pour changement, pour l'espoir, pour tout ce qu'on peut voir actuellement en Algérie.
C'était Signe des temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Céline Leclerc, avec à la technique Alexandre Dang et à la réalisation Véronique Villa. Dans un instant, une histoire particulière. Rimshi.